7h44, prochain journal dans un quart d'heure. La situation à Goma à la une. Avant cela, notre invité Afrique, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en République démocratique du Congo, également coordonnateur humanitaire. Entretien avec Guillaume Thibault à suivre à 7h50. Et puis la situation à Goma, c'est aussi à la une de la presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, comment sortir du conflit congolo-rwandais ?
Goma, ville de plus d'un million d'habitants, envahie par les rebelles du M23, soutenue par le Rwanda, une communauté internationale qui condamne mais qui ne sanctionne pas, des Congolais en colère à Kinshasa qui s'en prennent à des ambassades. Comment trouver une solution à ce conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, conflit qui dure depuis des années ?
Eh bien tout d'abord, les raisons de la colère.
Africa Arabia, site spécialisé sur la RDC, explique, les Congolais ne comprennent pas pourquoi l'ONU ne sanctionne pas le Rwanda pour son soutien à la rébellion et la présence de ses soldats au Congo, alors qu'ils l'ont fait pour la Russie qui a envahi l'Ukraine. Un deux poids, deux mesures, difficilement entendable à Kinshasa. Le Conseil de sécurité s'est certes réuni, relève le site, mais aucune mesure forte n'a été prise, si ce ne sont les sempiternelles condamnations et demandes de retrait que le M23 et son parrain rwandais ignorent copieusement.
Pour ce qui concerne la France, poursuit Africa Arabia, elle a été hier une cible privilégiée des manifestants à Kinshasa.
Oui, sur l'enceinte de l'ambassade, on pouvait lire « La trahison depuis longtemps, finissons-en maintenant ». Au Congo, la France est très souvent perçue comme pro-Rwanda. Depuis Nicolas Sarkozy, Paris tente péniblement de recoller les morceaux avec Kigali. Après l'implication de la France pendant le génocide des Tutsis en 94, Emmanuel Macron est sans doute le président français qui est allé le plus loin dans le rapprochement avec Kigali. Dans ce contexte, relève Afrique Arabia, Paris est vu comme étant le principal frein aux sanctions contre Kigali, au Conseil de sécurité. Pourtant, remarque le site, pourtant depuis de nombreux mois, Paris est aligné sur les condamnations onusiennes. Et puis, souligne encore Afrique Arabia, il y a aussi une aide de l'Union européenne de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour sa mission onusienne au Mozambique qui ne passe pas à Kinshasa. La question qui se pose est de savoir pourquoi l'Europe accorde une telle somme à une armée qui viole l'intégrité territoriale de son voisin.
Le Figaro à Paris revient sur ce blocage onusien.
En 2012, quand le M23 avait déjà pris le contrôle de Goma, toujours avec l'aide rwandaise, la réaction onusienne avait été brutale, rappelle le journal. Des sanctions avaient été rapidement prise et les États-Unis avaient pesé de tout leur poids. Les rebelles s'étaient finalement repliés en un mois. En 2025, cette année donc, si le scénario militaire est le même, l'époque a changé, pointe le Figaro. Les tensions entre les puissances occidentales d'une part et la Russie et la Chine d'autre part bloquent toute initiative onusienne. Et la loi du plus fort, qui paraissait inadmissible en 2012, est nettement mieux admise. Kigali l'a bien compris.
De plus, poursuit le Figaro, les initiatives diplomatiques régionales ont échoué, qu'elles viennent de l'Angola ou du Kenya.
Résultat, sans pression, le Rwanda est donc à même de dicter ses conditions, notamment une négociation directe entre Kinshasa et le M23. Or, Tshisekedi, le président congolais, refuse de parler à des terroristes. Fort de ce énième blocage, Kigali avance ses pions. Les rebelles menacent d'étendre leur emprise et de créer dans l'Est une région autonome de Kinshasa. En fait, résume le quotidien Le Pays ou Burkina Faso, tout le monde ou presque jette la pierre au Rwandais Kagame sans véritablement trancher dans le vif en faveur du Congolais Tshisekedi. Et la persistance de la crise est la rançon de cette hypocrisie de la communauté internationale qui a laissé pourrir la situation pour se mettre à courir maintenant dans tous les sens.
Alors comment sortir de ce bourbier ? Pour le Monde à Paris, il faut appeler un chat un chat.
Aucune amorce de règlement du conflit meurtrier qui embrase l'Est de la RDC ne peut être envisagée si les États-Unis ne font pas pression sur Kigali, comme Barack Obama l'avait fait en 2012 dans des circonstances comparables. Mais au préalable, affirme Le Monde, les protagonistes doivent être nommés, ce que la communauté internationale a trop longtemps refusé de faire. En RDC, comme en Ukraine, il s'agit d'une guerre entre deux États souverains, tous deux clairement désignés.
Frédéric Couteau.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Calme relatif ce matin à Goma, décrivait sur notre antenne il y a quelques minutes François Morayon, chef de délégation du CICR en RDC. Entretien retrouvé sur le site d'RFI, la capitale du Nord Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo, en proie depuis plusieurs jours à de violents affrontements entre membres du M23 soutenus par le Rwanda et armée congolaise aidée de ses alliés. Des violences qui coûtent particulièrement aux populations civiles, précise François Morayon. Selon l'AFP qui a compilé des chiffres chiffres fournis par les hôpitaux, le bilan pour l'heure est probablement sous-estimé, fait état de près de 100 morts et au moins 1000 blessés. L'Allemagne a notamment annoncé la suspension de son aide au développement à destination du Rwanda. Hier, lors de la seconde réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, en l'espace de 48 heures, la Chine a également appelé Kigali à revoir son soutien au M23. Enfin, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les dernières évolutions de la situation à suivre sur notre live dédié sur le www.rfi.fr. Les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, donc Burkina Faso, Mali et Niger, ne font plus partie de la CEDEAO officiellement aujourd'hui, un an après l'annonce de leur sortie. Et même si la communauté économique ouest-africaine leur laisse 6 mois pour revenir sans conséquence sur cette décision, des manifestations de joie ont eu lieu hier dans plusieurs villes, notamment Ouagadougou et Niamey. 376 000 Palestiniens de retour dans le nord de la bande de Gaza en 48 heures. L'OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, dit s'appuyer sur les chiffres de plusieurs organisations qui ont installé des points de comptage dans l'enclave palestinienne. La Russie dit avoir abattu cette nuit une centaine de drones ukrainiens au-dessus de 9 de ces régions. Un civil a notamment été blessé dans la région de Belgorod. En France, les députés ont approuvé hier soir à l'unanimité une loi visant à améliorer la prise en charge des soins liés au cancer du sein, sachant que le reste à charge est souvent trop lourd pour les femmes et place beaucoup d'entre elles dans une situation financière très critique. Et puis la dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions, c'est du foot. Et c'est ce soir en Europe, Stuttgart reçoit le PSG, tandis que Brest tentera l'exploit face au Real Madrid. Deux matchs à suivre à partir de 20h TU sur notre antenne. Goma, où le bilan humain, probablement sous-estimé à ce stade, continue de grimper, on le disait, où sur place des hôpitaux, les hôpitaux sont saturés, tout manque. La capitale provinciale du Nord Kivu, son million d'habitants et quasiment autant de déplacés, voit monter la crainte qu'à la violence des combats de ces derniers jours s'ajoute une terrible crise humanitaire. C'est ce que nous détaille ce matin Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en République démocratique du Congo, également coordonnateur humanitaire. Il répond à Guillaume Thibault.
Bonjour Bruno Lemarquis.
Oui, bonjour.
Il y a des tirs, des affrontements, sans discontinuer depuis dimanche dans Goma. Des rapports des Nations Unies pointent la saturation dans les hôpitaux et de nombreux cadavres en ville.
Donc la situation est très très grave, la situation est extrêmement volatile. Il y a encore beaucoup de tirs, y compris à l'arme lourde. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés. Ils peinent vraiment, ça fait plusieurs jours qu'ils étaient débordés, mais là c'est encore pire ces dernières heures. Donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés, malgré tout l'appui des partenaires de MSF, du CSR, etc. Surtout des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. En effet, il y a beaucoup de cadavres dans les rues, beaucoup de personnes tuées. Il y a eu des bombardements également sur certaines infrastructures civiles, notamment une maternité, la maternité de la Charité. Des bombardements qui ont touché certains campements des acteurs humanitaires.
C'était la crainte des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Des combats en pleine ville, des combats dans les rues de Goma, qui compte 1 million d'habitants et au moins 700 000 déplacés.
Ces combats en pleine ville rendent la situation catastrophique. Le fait que, bon, il faut voir au niveau des chaînes de commande, il y a beaucoup d'acteurs sécuritaires des deux côtés, donc il y a beaucoup de problèmes de coordination entre les forces, etc. Mais le fait que, après ces quelques jours de combat, les chaînes de commande ne sont plus aussi solides, ça renforce le niveau de risque également.
Vous indiquez dans un communiqué que près de 300 000 déplacés ont quitté les camps autour de Goma depuis dimanche, et ces déplacés sont en ville ou tentent de fuir.
Il y a beaucoup de mouvements de déplacés. Je parle de la périphérie de Goma où il y avait 700 000 déplacés avant ces derniers jours. Une grosse partie de ces déplacés ont dû se rapprocher de la ville de Goma à cause des combats dans la périphérie. Donc beaucoup de mouvements de population. On nous a rapporté un certain nombre de pillages sur des installations, donc des agences humanitaires des Nations Unies et des ONG. Donc il y a eu du pillage de nourriture, de vivres d'urgence et de stocks de médicaments. Donc ça, c'était vraiment les stocks humanitaires pour appuyer les déplacés notamment.
La situation sécuritaire bloque pour le moment toute action sur le terrain et la distribution de l'aide humanitaire est donc quasiment à l'arrêt.
C'est-à-dire que nos collègues humanitaires ne peuvent pas travailler en ce moment puisque c'est zone de guerre, donc on fait le dos rond. Tout le personnel non essentiel a quitté la ville de Goma pour qu'on puisse se concentrer sur les tâches critiques de protection des civils et d'action humanitaire. Mais là, les collègues ne peuvent pas vraiment travailler puisque tout le monde est chez soi, terré à la maison ou dans des bunkers ou dans les bureaux à cause des combats. Il faut la fin des hostilités pour que les activités humanitaires d'urgence puissent reprendre. J'en profite pour lancer un appel puisque ça va prendre beaucoup d'argent rapide. Il va falloir vraiment qu'on soit financé pour pouvoir appuyer, pour apporter toute cette aide humanitaire d'urgence dès la fin des hostilités.
Vous interpellez également les acteurs du conflit pour un arrêt immédiat des hostilités, pour permettre justement un accès à l'aide pour la population, et vous rappelez dans vos communiqués que le respect du droit humanitaire est une obligation.
D'une manière générale, ce qu'on demande comme communauté humanitaire, c'est la fin immédiate des hostilités. La fin immédiate des hostilités, donc ça c'est également lié au processus politique et aux pressions qui doivent être faites sur les belligérants. Sur la RDC aujourd'hui, c'est absolument critique que nous passons des mots aux actions. Nous demandons le respect du droit international humanitaire qui est vraiment violé à grande échelle. Nous demandons l'arrêt des tirs à l'aveugle dans les zones urbaines qui font beaucoup de victimes. Nous demandons l'ouverture de corridors humanitaires, la réouverture de l'aéroport, le passage des frontières pour les gens qui doivent bouger à cause du niveau de danger. Voilà un peu la situation. Donc c'est très dangereux, c'est très volatile. Il faut vraiment la fin des hostilités.
Merci Bruno Lemarquis.
Merci beaucoup.
Le représentant spécial adjoint de l'ONU en République démocratique du Congo, entretien avec Guillaume Thibault, enregistré hier. Maman, votre carte postale du Gondwana, comme chaque jour et ce matin, vous nous dites qu'en très très démocratique république, certains métiers ne sont pas à conseiller à tout le monde.
Oui, d'entrée, je vais énoncer une opinion personnelle, mais très impopulaire. Malgré le chômage galactique au Gondwana, il y a des métiers très très dangereux à ne pas mettre entre toutes les mains. Bon, je ne compte pas le fait d'être gondwanais lambda, qui est à lui tout seul une galère aussi, sinon plus ardue que le châtiment de Sisyphe. Tu sais, ce pauvre gars condamné à pousser une pierre jusqu'au sommet d'une montagne, d'où elle finit par retomber pour qu'il recommence encore et encore. C'est ça le job d'être gondwanais lambda, ta galère ne finit jamais. Il y en a des métiers dangereux au Gondwana, comme électeur de l'opposition, secrétaire général de la présidence, ministre des affaires courantes. Tu sais, ce ministre qui est tout le temps en train de courir et transpirer pour gérer les affaires courantes de l'entourage. Il y a aussi piéton dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, où tu peux te faire écraser par n'importe quel engin roulant, voiture, moto, tricycle, charrette et même char de combat. Sans oublier, membre de la société civile ou bien journaliste. C'est des métiers qui, à l'instar des histoires d'amour, finissent toujours très mal. Mais il y a un métier devant lequel nous nous prosternerons aujourd'hui, un job plus périlleux que Gondwanais lambda himself, c'est DG comme directeur général, DG comme danger. Attention, je ne te parle pas des DG du secteur privé, hein, tu sais, c'est DG stressé, c'est DG à la merci des résultats comptables de leur entreprise, de l'offre et de la demande et du bon vouloir de leurs clients. Non mon ami, je te parle des DG là, tu sais nos DG à nous, ici au Gondwana, tu vois non? Je te parle de nos DG comme Dieu est grand, mais DG n'est pas petit. Au Gondwana, certains DG sont plus puissants et omnipotents que leur ministre de tutelle. Quand ils voient le ministre faire le malin à la télé, ils rigolent tout doucement. Parce qu'ils savent qui est qui et qui gagne combien. Dans la société à la tête de laquelle DG a été nommé par président fondateur en personne, mais DG est comme Superman, c'est le boss. Quand il arrive au bureau, tu ne peux pas ne pas être au courant. Hein. Tout le monde est au garde à vous. Les bavards se taisent, les éternels promeneurs dans les couloirs se rassoient à leur bureau pour faire semblant de travailler, les vigiles sont debout, les secrétaires arrêtent de grignoter des arachides sous leur bureau parce que DG est là, hein, DG est là. Et tu le vois sortir de sa V8 ou de sa Range Rover de fonction pour monter dans son bureau par son ascenseur personnel, suivi par son escorte qui monte vite par les escaliers pour tout sécuriser. DG est puissant comme Superman. Mais de la même manière que Superman n'a peur que de la kryptonite, la seule arme qui peut détruire DG, ben c'est un audit. Dès qu'on parle d'audit, DG devient comme un petit garçon. Il court se cacher sous le lit parce qu'il sait ce qu'il a fait. surtout quand c'est président fondateur qui a lancé l'audit. C'est là que DG devient DG comme dégage. À demain.
À demain, maman. RFI dans un peu plus d'une minute. Le journal, la RDC à la une. Restez bien avec nous.
depuis le Venezuela. Je m'appelle Valentina, je suis prof de français et j'utilise le journal en français facile tous les jours en cours.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
C'est un super outil pédagogique qui permet d'évoluer dans la compréhension de l'oral et aussi d'être au courant de l'actualité internationale.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI.
Le Centre Pompidou-Metz présente l'exposition « Après la fin, carte pour un autre avenir » du 25 janvier au 1er septembre. Au programme, 40 artistes internationaux autour de récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes, traversés par l'histoire coloniale et post-coloniale. Après la fin, carte pour un autre avenir à partir du 25 janvier. Plus d'informations sur centrepompidou-metz.fr. En partenariat avec RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
RFI couvre-t-elle la guerre au Soudan de manière équilibrée ? Coup de projecteur sur ce conflit oublié, l'une des plus graves crises humanitaires de la planète. Depuis le déclenchement de la guerre en 2023, 30 millions de personnes ont besoin d'une aide.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça ? Avec Juliette Rangeval.